Alors, Kenleur, voilà le logo de cette Confédération culturelle bretonne qui est toute jeune, parce qu'elle a été créée il y a à peu près 2 ans. C'était le 27 juin 2020, en plein Covid. Et c'est la fusion de deux confédérations qui avaient divorcé en 1967. Donc il y a eu deux chemins parallèles de 1957 à 2020, et on a réussi effectivement à rassembler les forces de la Confédération Kendall, qui était la première confédération qui a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale dans les années 50, en 1950. Et puis à l'époque, Kendall rassemblait l'ensemble du mouvement culturel breton, qui était très militant, très politique, qui voulait vraiment que la Bretagne existe, ait du pouvoir, et puis rassemblait donc les danseurs, les musiciens des Bagadous, éditait une revue qui s'appelait Braise, avait aussi une section pour la lutte bretonne, qu'on appelle le Gouren, il y avait aussi des chorales, et puis les sonneurs, qui ont peut-être un caractère plus trempé que les danseurs, mais je suis aussi un sonneur, donc je sais ce que. Bref, les sonneurs, ils ont voulu prendre leur indépendance en 1965, donc il y a eu une scission, c'est-à-dire que Kendall a perdu l'Assemblée des sonneurs, qu'on appelait BAS à l'époque, et 2 ans après, il y a certains danseurs qui ont dit, bah, nous aussi, on veut sortir de Kendall, qui pour certains était peut-être trop militant, trop politique, et peut-être que les politiques parisiens ont vu ça d'un bon oeil, en se disant, les Bretons se séparent, et puis comme ça, en divisant, c'est plus facile de régner. Bref, et donc on a vu effectivement deux chemins se créer, Varleur d'un côté et Kendall de l'autre, en sachant que Kendall, ça signifie maintenir. Et Varleur, ça signifie sur le sol. Et donc, ça a été très compliqué de trouver un nouveau nom pour notre confédération unique. Et donc, ça a été Kenleur. C'était la chose la plus compliquée, sans doute, à faire dans la fusion. Et on voit effectivement un sol avec ce trait qui est souligné, des lettres qui dansent sur ce sol. Et donc, Kenleur, c'est un mot valise. Donc, c'est un mot qui est composé de deux morceaux, comme Brexit, par exemple, comme le franglais. On a pris deux morceaux qui sont non signifiants, qu'on a assemblés. Le préfixe ken, ça, c'est un préfixe qu'on retrouve dans beaucoup de mots dans la langue bretonne, comme le mot que tout le monde connaît, kenavo, qu'on dit pour dire au revoir. Et donc, ken, ça correspond au co de copain, l'ami avec qui on partage le pain. Donc c'est un préfixe qui donne le sens du partage, et du côté ensemble. Et leur, LEUR, ça signifie le sol. Varleur, elle est sur le sol. Leuren, c'est la scène. Si vous entendez dans le mot dance floor, l'or, ça vient de la langue irlandaise, et donc c'est à rapprocher aussi la danse sur le sol. Et donc, du coup, on en a fait un nouveau mot qui est un mot néo-breton que les anciens de la société rurale n'ont jamais prononcé, mais qui signifie du coup ensemble sur la scène, co-scène ou scène partagée. Voilà, donc Kenleur, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite carte. C'est une association. Loi 1901, qui est donc bien sûr sur les 5 départements bretons. La Bretagne administrative compte 4 départements, mais effectivement, dans nos statuts, on affirme que la Bretagne, c'est 5 départements, y compris la Loire-Atlantique, parce que effectivement, on a donc chaque département qui est organisé aussi avec des fédérations départementales. Donc il y a Kenleur, la confédération qui rassemble l'ensemble du mouvement, et on a aussi chaque département qui est une association, sorte de filiale de Kenleur. Donc il y a 5 départements, mais vous voyez aussi sur le côté là, on voit la carte de France. On a plusieurs groupes qui sont aussi à Lille, à Lyon, à Strasbourg, à Orléans, Bordeaux, beaucoup en Normandie aussi, Équeurdreville, Le Havre, Caen. Et on a de l'autre côté en haut là, les groupes de régions parisiennes. Les Bretons ont beaucoup immigré à Paris, et dans les années 50, il y a eu de nombreuses créations de groupes, et ils existent encore. Il y a même la Mission Bretonne, qui est un lieu à Montparnasse où il y a de nombreux stages, de nombreux cours de danse hebdomadaires de danse bretonne. Donc voilà notre carte. N'hésitez pas à poser des questions. Hein, si...
Je complète l'île de France.
Oui.
Je vois qu'il y a beaucoup de cercles plutôt sur la côte sud. Du coup, est-ce qu'il y a une raison
Oui,
à ça
je pense qu'il y a une explication. C'est que là où il y a de la demande pour faire des prestations, il y a aussi des groupes. Et donc, effectivement, beaucoup de prestations des groupes bretons sont faites pendant l'été et aussi sur la côte, parce que sur la côte, il y a des touristes qui sont en demande de voir la culture bretonne. Donc, quand on voit dans la Veine, là, entre Bénodet, Concarneau, Fouesnant, Élian, Saint-Évarzec, La Forêt-Fouesnant, Pont-Aven, Rillac, Banalec, et ben effectivement, et un week-end du 15 août, ils ont tous du boulot, quoi. Ouais.
Tu voulais rajouter quelque chose. Je disais dans la zone blanche là que tu montrais, donc c'est la montagne.
Oui, c'est ça.
Et là, les gens, par l'expérience que moi j'ai, on n'avait pas les anciens, ils étaient entre eux. Ouais. Ils aimaient pas trop que au niveau des cercles, c'était pas trop leur entre guillemets leur tasse de thé, quoi.
Ouais.
Ils considéraient que les cercles ne retransmettaient pas vraiment la réalité. Ils n'avaient pas tort, hein, pour avoir connu dans les années 60, enfin des années 60, j'ai fait aussi comme beaucoup de jeunes dans un cercle. Et c'est vrai que ce que je me montrais dans le cercle et quand j'allais sur le terrain, c'était pas tout à fait la même chose. Quoi.
On a codifié un peu, ce qui est normal.
Oui.
Parce qu'il y a un moment, avant, en fait, il n'y avait pas d'apprentissage. C'est-à-dire que les gens regardaient, ils s'accrochaient et puis il n'y avait pas de pédagogie. Chacun regardait et puis s'y mettait. Alors que quand les cercles sont arrivés, il y a eu une transposition de cette danse traditionnelle sur scène. Et puis, il y a aussi une pédagogie qui a été mise en place. Où on compte 1, 2, 3, 6 pas, pause, lève ton pied, des choses comme ça.
Chose qui ne se faisait pas avant. Quand on apprenait les danses au départ avec les anciens, ils nous disaient, vous regardez, vous allez faire. Et je rejoins ce que dit Tristan aussi. C'est vrai qu'à un moment, il fallait quand même codifier un peu. Parce que dans un même coin, tout le monde ne dansait pas pareil. Chacun, ça dépendait des gens, des personnes. D'abord, ça dépend de physiquement, on n'est pas tous pareils. Hein. Et puis il y a certains qui ils appréhendent mieux la danse, l'écoute, ils vont bien danser. Puis il y en a d'autres, il y en a d'autres qui n'arriveront jamais à bien danser, mais ils ont envie de danser quand même. Ce qui fait qu'on n'a pas tout à fait, on a quand même des dérives. Il a bien fallu, et le rôle des cercles de ce côté-là était bien, parce on a essayé quand même de mettre des choses qui que tout le monde puisse se transmettre. Quoi. Parce que on regardait les anciens, dans un groupe, moi, pour l'avoir connu, on disait, qui on regarde, quoi. Moi, j'ai retenu des gens, j'ai dansé comme certains, parce que ça me plaisait. Mais je ne dis pas que c'était peut-être la meilleure façon de danser.
Oui. Voilà. Allez-y, il n'y a pas de question.
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'un cercle.
Ah oui.
Ah très bien. Oui.
C'était la même question.
Moi, c'était pourquoi justement ça s'appelait comme ça et est-ce que ça s'est toujours appelé cercle? Ça, on se rejoint.
Alors, j'ai une petite liste de dates de création de groupe. Les premiers cercles, même le plus ancien, c'était à la Baule. Parce que quand il y a eu les premiers congés, les Parisiens sont allés à la Baule et puis ils ont eu une demande. Et comment on danse, comment on porte le costume. Dans les années 1870, il y avait des groupes dits pittoresques qui animaient effectivement les vacances des touristes. Mais les premiers cercles, et la première fois où on prononce ce mot-là, c'est à Paris. Et donc, dans l'idée du cercle, il y avait peut-être...
Parce que ça se danse en rond, c'est tout ?
Alors, il y a ça, mais je pense qu'il y avait aussi une idée d'un cercle comme une confrérie, groupe de personnes, une communauté. À Poissy, on a un cercle qui est dans la catégorie excellence, donc la plus haute catégorie. C'est un cercle donc, de la région parisienne. Et en fait, il faut savoir que tous les Bretons sont arrivés à Paris. Il y a eu une grosse communauté, par exemple, à Poissy. Et donc, ils ont voulu continuer à vivre leur Bretagne. Et donc, tous les semaines, ils se retrouvaient pour danser. Et puis c'est un cercle qui reste 70 ans après, le meilleur cercle de Bretagne. Et donc je pense qu'il y avait cette idée-là de cercle parce qu'on danse en ronde, mais aussi cercle communauté qui aime être ensemble. Et après, il y a eu le côté celtique parce que Je pense que c'est aussi Alan Stivell hein, qui a fait un article dans la presse qui était parrain de l'exposition Celtic point d'interrogation qui est au musée de Bretagne là. Et on a vu dans la presse que finalement il a refusé de continuer à être le parrain de l'exposition parce que effectivement l'expo pose la question de est-ce qu'on est si celtique que ça. Alors que ben, effectivement Alan Stivell en a fait son fonds de commerce depuis les années 70 avec le Triskel, avec un peu d'Irlandais, d'Écossais et effectivement aujourd'hui ben, à l'image de, il y avait Lénaïque Joanneau qui était là ce matin, elle n'aime pas le mot cercle celtique. Allez. Toi d'ailleurs qu'est-ce que tu penses, ça te dérange? Oui, non?
Ça m'a dérangé, c'est pour ça que j'avais quitté le cercle de Plébin parce que j'aimais pas le... j'étais au cercle Plébin à l'époque et c'est vrai que le mot cercle me gênait.
Ouais. Ça nous donne aussi un esprit fermé, alors que je peux vous dire que je considère que le milieu des groupes bretons est un milieu très ouvert sur la diversité, l'acceptation de l'autre, quel que soit le statut, le métier, le sexe, l'orientation sexuelle. On est vraiment même si de loin on peut apparaître comme un milieu plutôt conservateur, attaché au passé, etc. Il y a beaucoup de tolérance, de bienveillance, et c'est un milieu plutôt sain à plein de niveaux.
Et ça s'est toujours appelé comme ça. Il n'y a pas eu à un moment donné un petit nom un peu juste la ronde.
Non. Mais non. Cercle. Et dans les statuts déposés dans les années 50, tout le monde s'appelle cercle.
Oui.
Alors, il y a, dans les années 2000, il y a eu une vague de modification des statuts parce qu'à l'époque, à Spézette, où j'étais danseur, l'article 6 disait que le but du cercle, c'est d'inculquer parmi ses membres un culte pour l'esthétique celtique. C'était une école de fierté bretonne, parce que, en fait, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais ce soir, je suis bavard. En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands promettent aussi à certains Bretons une indépendance, on va vous donner du pouvoir. Et donc, l'occupant, pour certains, est apparu comme une éventuelle chance pour maintenir l'identité bretonne, la langue bretonne, parce que la Troisième République avait interdit de parler breton dans les écoles. Et donc, du coup, il y a beaucoup, une poignée, mais ça a marqué beaucoup la population bretonne, qui ont été collaborateurs. Et donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, toutes ces personnes-là ont été exilées en Irlande, etc. Il y a eu des jugements. Il y a eu un mouvement qu'on appelait Breizhatau. C'est ceux qui étaient presque assimilés à ceux qui avaient fricoté avec les Allemands. Ce qui a donné à l'ensemble du milieu une mauvaise image. Le créateur du cercle de Spézette m'a dit que les premières années où il a défilé dans les rues de Quimper lors du festival de Cornouailles, on leur jetait des cailloux et on les traitait de collabos. Et donc, ça veut dire que le fait de revendiquer politiquement une indépendance ou une autonomie dans ces années-là, ça paraissait compliqué. Et du coup, ils se sont dit, ben, plutôt que de faire de la politique, on va faire du culturel. On va dire aux jeunes d'apprendre la bombarde, d'apprendre la belle cornemuse, de danser, de mettre une coiffe. Et c'était un peu aussi une sorte d'acte politique. Et donc, c'est pour ça que dans les statuts, on disait oui que c'était des écoles de fierté bretonne, quoi. Alors que, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui viennent dans un groupe de danse ou dans un bagad pour une question militante. Alors, certains le regrettent. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce qui importe surtout, c'est le plaisir d'être ensemble, le plaisir de vivre des expériences artistiques.
Quelques mots sur Kellner rapidement. Donc on a un conseil d'administration avec deux coprésidentes, des vice-présidents, trésoriers, secrétaires bien sûr, des membres élus et aussi des membres de droit qui sont issus des fédérations départementales ou thématiques. On a donc la fédération des chorales en langue bretonne qui sont aussi représentées au sein de Kellner. On a à peu près 25 chorales qui sont adhérents de Kellner. On est structuré avec des commissions transversales, mais aussi sous les vice-présidences, on a plusieurs commissions. Donc on a tout structuré ça pendant notre Covid, grâce à la visio. Donc c'est un processus qui a pris à peu près un an et demi et qui n'était pas... pas gagné d'avance. Et au final, il y a eu un pré-vote le 15 février, puis un vote final officiel le 27 juin 2020. Et il y a eu entre 90 et 95% pour oui dans les deux confédérations, parce que chaque confédération votait de son côté. Donc ça a été une belle opération, pleine d'émotions. T'étais présent, Michel ?
Non, t'étais pas. J'ai pas pu être.
Mais ça a été humainement et puis associativement un moment assez fort.
C'était une très belle chose, de fait, parce qu'on a besoin aujourd'hui de regrouper nos forces. On peut pas aller chacun de son côté.
Ouais.
Sinon, la danse bretonne, enfin la culture bretonne, ne tiendra pas. Donc il faut se soutenir aujourd'hui et on n'a pas le choix. Et c'est vrai que regrouper, moi je suis très heureux, je reconnais très heureux que les deux groupes, parce que j'ai connu les deux, Kendall et Varleur, et je suis très heureux que les deux soient ensemble aujourd'hui. Parce que c'est quand même, ça nous permet d'avoir une force, on va dire, pour montrer ce qu'on a, hein, et puis surtout défendre notre culture qu'on a aujourd'hui, parce qu'on ne nous aidera pas.
Si, ça change.
Oui, ça change.
Il y avait une personne de la DRAC ce matin qui, pour la première fois, nous a versé l'an passé une subvention de 30 000 euros. Donc l'État français. Donc,
ça évolue. Donc regardons le bon côté de la chose. Il y a l'espoir.
Toujours avoir l'espoir.
Oui.
On est donc 8 salariés plus une alternante qui est arrivée depuis quelques mois. Donc on est deux co-directeurs. Youenna Baron et Florian Ferré sont graphistes chargés de com. Carole Leminière est responsable administrative. Il y a Mathieu Lebouche qui est là pour gérer les collections de costumes, de photos, de films. Morvan Jégou et Jonathan Guénec qui s'occupent entre autres des interventions dans le milieu scolaire. Nous avons deux lieux sur la côte sud. Entre Quimper et Lorient, on a des locaux à Rieck-sur-Melon dans la Veynes avec notre collection de pièces anciennes, textiles. On a environ 3000 pièces qui sont issues de la société rurale, des coiffes, des jupes, des tabliers, des chapeaux, des bijoux, qui permettent effectivement de sauvegarder ces pièces parce qu'elles sont reconstituées par les groupes qui sont sur scène, donc ils viennent, ils mesurent, pour approcher au maximum de la broderie, du motif, donc c'est vrai que ça demande un peu de place, et donc tout a été inventorié, numéroté, photographié, et on reçoit régulièrement des dons de collectionneurs ou de gens qui disent ben, j'ai le costume de mariage de mon arrière-grand-mère, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais en faire, je préfère vous le confier, et donc ça nous demande effectivement beaucoup de temps d'archivage. Et on a nos locaux administratifs à Auray, donc dans un très beau bâtiment qui a été construit il y a 6 ans maintenant. Juste parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, une des vocations de la Confédération, c'est qu'on est là pour garantir la valorisation et le développement de la danse, et on s'appuie sur tout moyen, équipement, structure et création artistique venant nourrir la tradition. Donc dans notre vocation, cette création aussi fait partie de notre volonté. Et quand on a rédigé ce texte-là, qui était notre vision pour savoir vers où aller, parce qu'il fallait qu'on se mette d'accord sur un texte commun avec Kendar et avec Varleur, on a passé une journée pour se mettre d'accord sur chaque mot, pour que ça nous donne effectivement notre horizon et notre objectif. Eh bien, un de nos buts, c'est d'augmenter le nombre de pratiquants de la danse et aussi la qualité de la transmission. Et de construire, forger la reconnaissance institutionnelle de la danse bretonne en tant que discipline artistique et développer le rayonnement des créations chorégraphiques bretonnes. Parce qu'effectivement, comme on en parlait ce matin, des fois on se dit qu'on est classé dans une case peut-être plutôt passéiste, rétrograde, et que notre but, c'est effectivement que la danse bretonne de qualité soit programmée encore plus sur les scènes nationales ou sur toute scène, mais qu'il n'y ait pas de hiérarchie avec la danse contemporaine qui est peut-être plus aidée, et puis la danse des amateurs qui est moins valorisée. Alors, une petite vidéo, il n'y a pas de son. Donc c'est une première vidéo, ça c'est 1939, c'est fait dans le Morbihan,
Et donc c'est en 1939, il y a une mission de l'État français qui vient filmer des danseurs sur la Bretagne. Et donc il y a, c'est une collection des ATP, donc qui sont avec des images qui sont au Mucem. Et donc ça, c'est sorti en bouquin avec Dastume il y a une dizaine d'années. Donc c'est intéressant, là on voit, effectivement chacun a peut-être une position de pied différente, mais il y a quand même une unité qui se dégage. Donc là on a vu un andro puis une gavotte, et ça c'est encore plus ancien, c'est une très belle vidéo de 1908, encore dans le Panthéon. Là on a un Larry Lessitant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les sonneurs, Bombarde et Binucose. Donc Binucose qui est à l'octave au-dessus de la bombarde, donc c'est très aigu, c'est très sauvage, ça permet d'exciter les danseurs. Donc là on voit que c'est une coiffe du bassin lorientais avec un chapeau avec des guides, donc qui est une mode spécifique. À Lorient par exemple, il n'y a pas de guide, c'est les rubans qui déplacent. Et en fait il y a des petits codes, par exemple là il y a la boucle sur le devant et on sait tel chapeau, et ben c'est le pays de lorientais mais plutôt nord.
Quand on regarde des films, il faut bien le retracer dans le contexte quand ça a été filmé. Il faut, parce qu'on voit parfois des choses, pour ma part, de mon côté, faites par Jean-Michel Guilcher, là, qui a fait un gros travail, par exemple à Saint-Rivol, de voir une danse du pied droit, d'une gavotte. On est un peu surpris, quoi, par rapport à ce...
Dans ces années-là.
Ah oui, non, ils étaient enfants. Ils avaient quand même, il faut reconnaître, moi étant jeune, quand j'ai été faire avec un monsieur qui s'appelait Louis Repars à l'époque, et qui nous faisait on allait danser à Saint-Hermotte, ils étaient solides. Hein. Non seulement ils chantaient, mais ils dansaient, quoi.
Et tu fais une bonne transition, parce qu'on va voir quelque chose qui est très physique. Donc ça, c'était une vidéo ancienne. J'ai voulu aussi vous montrer que la danse traditionnelle, sous sa forme traditionnelle, est toujours très vivante, et on va regarder... Je voulais faire plaisir à Guillaume parce que c'est une vidéo faite à Rostronin, là où il est maire, du concours ficelle. Et vous allez voir que ça peut être un vrai sport.
Le ficelle.
Parce que le ficelle, donc c'est un concours qui se passe sur une après-midi, le dernier dimanche du mois d'août. On danse en ronde, on fait le même pas toute l'après-midi. Et le lendemain, moi, il y a eu des fois où je me réveillais le lendemain et j'étais comme ça. Parce qu'on a plus de jambes, on se donne. Il y a eu une fois même où les filles de Rostronin, avec qui donc on peut former des couples, et ben elle me dit viens derrière, j'ai un truc. Et donc elle sortait son tube de Voltaren. Et donc elle me disait mets sur tes mollets, mets sur tes cuisses, comme ça va chauffer et comme ça tu sentiras rien. Pour vous dire effectivement la performance, et vous allez voir la vidéo, c'est un concours extra, quoi.
Et encore nos anciens, moi quand je l'ai appris, on ne décomposait pas à l'époque, on dansait avec les anciens, ils nous mettaient entre eux. Et quand je l'ai fait à cette avant avec l'équipe d'un monsieur Louis Repars, ils nous ont mis, j'avais 17-18 ans, entre eux, et puis ça y allait. Alors moi, je faisais beaucoup de sport, comme d'autres collègues. On est sortis de là, on était morts. Eux, ils étaient encore en forme. Ils sont allés après prendre leur petit goûter à côté. Il y avait le bar à côté. Ils sont allés. Ils avaient chanté, mais c'est incroyable. Ils avaient chanté. Là, on ne les voit pas chanter. Ils chantaient dans la ronde. Ça, alors, je ne sais pas comment ils faisaient. Ah, bien sûr, ils rigolaient en voyant nous, les tout jeunes, là, qui étaient morts. Mais nous, quelque part, comme disait Tristan, comme on est bien attaché, on est en même temps porté. Et c'est vrai que ça aide aussi dans la danse. Mais encore, faut-il avoir le coup? Eux, ils avaient le coup. Donc, ils étaient plus résistants que nous.
Comment on est passé de, justement, là, c'est les premières danses là, qu'on voyait un peu en noir et blanc dans un village, à cette idée de concours?
Alors, les concours ont toujours fait partie même de la société rurale traditionnelle. C'est-à-dire que... Le breton, il aime bien se mesurer. Et donc, même au début du 20e, je pense qu'il y a des articles de presse qu'on peut lire. Le concours de tel bourg, les meilleurs danseurs se sont réunis au son du bombarde et de la bombarde et du biniou. Et on appelait ça la danse du tabac ou la danse des mouchoirs, la danse sur varzéienne sur les rubans. Et donc, les gens faisaient des choses un peu plus démonstratives. Et du coup, il y avait
un jury et on valorisait les meilleurs danseurs. Et donc c'est pas forcément quelque chose qui a été forcément créé par les cercles, même si aujourd'hui beaucoup de concours sont portés par le milieu Kenler et les groupes adhérents. Le premier concours le plus ancien, il va fêter ses 50 ans, c'est le concours Ficelle, je crois. Il fête ses 50 ans cette année.
Mais du coup, c'est un concours de groupe, pas un concours.
Alors, là, en fait, effectivement, il y a.
Énormément parlé de ça ce matin.
Alors, effectivement, ça c'est important.
Finalement, là, on vient valoriser des danseurs.
Effectivement, là, vous avez vu, ils ont des numéros de dossard dans le dos. Donc, il y a deux sortes de concours. Des danseurs, des concours de danse où on va juger l'individu, mais tout en restant dans une pratique communautaire. Et puis, le concours dont on parlait ce matin avec les Grecs, qui est un concours de prestation scénique, où là, c'est le groupe. Qui est jugé ensemble, quoi. Un groupe entre guillemets comparé à un autre groupe. Et ces concours de danse dits plutôt individuels ont existé depuis très très longtemps, quoi. Même dans la société rurale.
Et là toujours, c'est-à-dire il existe actuellement, oui. Le meilleur danseur de Bretagne.
Oui.
Bruxelles danse.
Alors j'ai envie de dire, donc il y a 25. Donc quand je suis arrivé, c'est Varleur, on a donc il y avait plusieurs concours qui existaient, on va dire une dizaine. Dont Ménesmeur, un concours qui n'est pas loin ici, qui rassemble 350 concurrents. Et en 2013, j'ai eu l'idée de réunir à Gourin, donc tous les débuts du mois de septembre, ceux qui ont eu des prix dans les concours de terroir. Et on a réussi à développer, grâce à ce projet de finale de danse traditionnelle, à fédérer et à lancer la création de plusieurs autres concours. Et aujourd'hui, on arrive à 27 concours qualificatifs. Donc on a revalorisé aussi la danse traditionnelle. En Finistère, on a créé un concours qui aura lieu dimanche prochain à Saint-Ségal, dans dimanche d'après.
Ben oui, bon, enfin.
Il y a un concours dans le Cap Sizun. Eh ben j'aurais dit, allez, ça serait bien de faire quelque chose dans le Cap. Ok, bon, allez, je vous donne les dossards. Et puis, en fait, ça reste assez simple à organiser. Ça demande un peu de logistique de coordination, mais et donc il y a aujourd'hui un concours à Plougastel aussi, oui. Qui a été lancé. Là, je parle du Finistère. Hein, il y a un concours en Avesnes qui existe depuis 20 ans, Ménesmeur qui existe depuis 35 ans. Il y a un concours à Pont-l'Abbé pour la gavotte Bigouden qui existe depuis 1995. Et donc aujourd'hui, tous ces danseurs-là qui ont des prix, ils se réunissent et donc après, on tire au sort. 4 danses de Bretagne, et donc on leur fait faire ces 4 danses-là, et là il y a un classement par points qui permet d'élire le champion et la championne. Ça existe depuis 2013.
Et moi j'ai une question par rapport au concours ficelle, et après peut-être qu'on passe à la suite. Du coup, tu disais que le concours ficelle c'était déjà des choses qui existaient.
Ouais, depuis 50 ans, ouais.
C'est vieux,
et oui, et même avant.
Avant, du coup, le concours ficelle ça existait déjà. Ce qui est assez spécifique, moi, je trouve, sur ce concours-là, c'est qu'on sépare les hommes des femmes, alors que c'est une danse, quand on la voit en fesnose ou en représentation de cirque celtique, c'est une danse qui se danse hommes et femmes en même temps.
Oui, oui.
Pas la même danse et pas le même rôle, entre guillemets, entre les hommes et les femmes dans la roue. Mais du coup, je me pose la question de quelle modification peut apporter le fait de représenter la danse en séparant du coup les hommes et les femmes par le biais de ce concours-là. Est-ce que c'est quelque chose qui finalement a toujours existé ou qui émane de ce concours ficelle qui existe depuis 50 ans ?
Alors Jean-Michel Guichard, dans sa thèse, explique qu'effectivement, dans les moments du quotidien, on pouvait avoir des danses que de femmes et des danses que d'hommes.
Oui.
Maintenant, je pense que quand même, dans l'idée des concours du début du 20e siècle, je pense que c'était quand même genré, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des couples et on donnait des prix plutôt par des couples. Mais aujourd'hui, je suis un de ceux qui veut un peu déconstruire aussi ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les questions du genre, je pense qu'il faudrait plutôt parler d'un meneur et d'un suiveur, plutôt que d'un cavalier et sa cavalière, ou d'un garçon et d'une fille. Et donc là, on est en train de voir peut-être aussi un basculement, pourquoi deux filles ne pourraient pas venir participer au concours Casabar, avec une fille qui fait la place de l'homme, et puis une autre fille qui fait la place de... Et en fait, aujourd'hui, il y a certains qui ont complètement ouvert ça, d'autres qui sont encore attachés, ah oui, mais dans la société rurale traditionnelle, etc. Et du coup, aujourd'hui, on est dans ces questionnements-là et c'est en train de poser question.
Oui. C'est quoi les conditions du concours pour participer ? Est-ce qu'il faut une danse de temps de minute ? Il faut être un groupe ? Il faut être deux ? Il faut être trois ? C'est tel type de danse ?
En fait, les danses, si par exemple on va à Saint-Ségal, on sait déjà qu'il y aura la gavotte de Brasparts, la gavotte Rouzic. En fait, on sait déjà l'annonce du programme de tel concours. À Ménesmeur, il y a la gavotte de Brasparts, la gavotte de Calonnel, la gavotte d'Artou du pays de Châteauneuf, la gavotte du Poer et puis la gavotte du pays de Carnet-Vaudès. Et donc, on sait, et donc il y a des histoires de poules. Le matin, après les demi-finales en début d'après-midi et les finales. Donc, des fois, on arrive à 15h, on dit et pour la finale de la gavotte de Brasparts, sont qualifiées les filles numéro 100, 101, 100. Et puis, il y en a qui sont je suis en finale. Et puis, d'autres, je ne suis pas sélectionné. Bon, ce sera l'année prochaine. Et du coup, il y a une émulation. La première fois que j'ai fait le concours ficelle et que j'ai été. Qualifié en finale, mais je savais que j'aurais pas eu de prix parce que il y a des danseurs qui sont exceptionnels. Mais rien que d'avoir été qualifié en finale, mais pour moi c'était la victoire ultime. J'étais, je vais vivre ce moment-là et c'est des super moments quoi.
Donc en fait ils font partie d'un cercle, mais ils sont
pas forcément
individuellement à ce concours.
Pas forcément. Tu pourrais venir au concours ficelle, t'inscrire. Il faut pas de conditions.
Faut pas hésiter à s'inscrire.
T'arrives, tu donnes 1 euro. Tu donnes 1 euro pour le dossard et on te rend ton euro à la fin du concours. Et puis voilà, c'est pas compliqué. Hein. Il n'y a pas de conditions. Tu seras la bienvenue.
À Ménesmeur, il n'y a pas que les cercles.
Non. Et il y a d'ailleurs des gens qui sont très très bien classés qui ne font pas partie de cercles. Et alors, on nous a dit aussi, quand on a lancé cette histoire du championnat de Bretagne, oui, mais ça sera pour les jeunes, etc. Le premier homme champion, il avait 68 ans, il s'appelait Joseph Le Breton et il venait de Clisson. Donc, et donc j'étais assez content parce qu'il y a plein qui disaient, ouais, de toute façon, c'est pas normal. Quand j'ai vu qui a été au final, qui a, avec le classement par points, je me dis, bon, c'est ouvert à tous. À la finale, on a 4 danses qui sont tirées au sort et on confie au concours qualificatif. Par exemple, si la gavotte de Brasparts est tirée au sort, Michel sera sans doute président du jury et il constituera avec des habitants de la zone géographique autour de Brasparts de son jury. Et nous, on valide. S'il arrive avec 5 hommes, on lui dira « Oh, ce serait bien quand même que tu mettes équilibré. » Enfin, nous, on valide, mais on fait confiance aux gens du territoire.
Et au niveau des critères du coup de jugement, est-ce qu'il y a déjà des critères prédéfinis ou c'est
Oui, globalement, ouais, globalement.
Mais après,
il y a des petites modes. Par exemple, il y a un gars qui va peut-être rajouter un petit truc là. Il aura été champion parce qu'il aura une belle allure. Et ben, tout le monde va regarder les vidéos l'année suivante et puis tout le monde fera ce petit truc. Et en fait, il y a des petites choses qui évoluent. Mais je trouve ça formidable d'analyser ça. C'est hyper intéressant. Allez, j'enchaîne parce que toujours sur la danse traditionnelle et après on part à... Parce que le but, c'était de parler de la création, mais bon. Je vous montre juste une petite danse qu'on a inventée parce que dans le cadre de la danse traditionnelle, ça peut arriver aussi qu'on crée des nouveaux pas, des nouveaux mouvements de bras. Et donc ça, c'était pour les 50 ans de Varleur, c'était en 2017. Et donc on avait rassemblé 700 danseurs et cette musique et cette danse avaient été créées pour l'occasion. Donc c'est une danse sur 16 temps. Qu'on a appelé Anter Kan. Anter, ça veut dire moitié. Kan, c'est le chiffre 100. Donc, ça voulait dire 50. On a donné ce nom de 50 à cette danse qui a été dansée dans plusieurs fest-noses ensuite et qui a eu un bel engouement. Et c'est le chorégraphe du spectacle qui s'appelait Transbraise Express, qui s'appelle Karl Blanchet, qui est de Saint-Malo, qui a créé ça sur une influence plutôt vantaise. Tout ça pour dire que, effectivement, on est encore pour certaines occasions dans la création, tout en restant dans une forme traditionnelle. Voilà quelques dates. Je ne vais pas trop commenter, hein, mais vous voyez, il y a le premier cercle, c'est
Roland Reine Brésisel,
qui est à Paris.
Non, mais c'est Paris qui a relancé. Non, mais
c'est fou.
Et je pense que c'est un peu grâce à Paris. Souvent, quand on va à l'extérieur, on part loin. Qui parlait du Japon là?
Sinon, même si on n'est pas toujours d'accord.
C'était sur les danses traditionnelles.
Oui, voilà. C'est en allant à l'extérieur, en sortant du pays, qu'on se rend compte. Ah, mais en fait, ils font pas la gavotte à Paris. Où ils font pas de la danse comme chez moi au Japon. Et c'est là qu'on se rend compte de la richesse spécifique de notre pays et que quand on revient, ben, on devient... les plus passionnés, c'est aussi ceux qui ont été sur Paris et qui sont revenus après et qui ont dit, moi, je vais monter mon groupe et je vais donner toute mon énergie pour défendre ces richesses-là. Alan Stivell, il est né à Clermont-Ferrand. Gilles Servoz, il est né à Paris. Éric Marchand, il est né à Paris. Il y a des grands noms, qui sont des grands militants qui, en fait, sont nés ailleurs. Mais je pense que le fait d'être né ailleurs, ça permet encore plus de se rendre compte de ce qui fait la richesse, quoi.
Alors, par exemple, là, dans le dernier extrait, la musique est quand même très contemporaine. Ça peut être dansé sur des danses plus...
Oui, mais ça ne me gêne pas. Si le tempo, il est là... Alors après, effectivement, quand on est sur quelque chose comme un concours très traditionnel, effectivement, si quelqu'un arrive en faisant un peu du rap en français, ça sera... Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas. Si on est porté et tout ça, je pense qu'il y a des initiatives des fois qui, par exemple là, Carnevaudès, personne ne sait, je joue un ragtime parce que c'était un peu dans l'idée du pas Charleston là, et une des personnes ressources nous avait dit j'aime bien ce genre d'air là, il y a parce que les Américains suite à la Seconde Guerre mondiale avec les jazz bands ils ont joué des trucs comme ça et moi je joue ta da da din, ça fait
on peut si on est en fait, si le tempo correspond, on peut le faire. Hein. Moi, je l'ai fait à l'occasion il y a très longtemps, dans les années 72, pour le mariage de mon cousin. Ils jouaient un truc moderne, quoi, et on a fait un pline dessus. On pouvait faire un pline.
Ça peut marcher.
Ça marche. Le tempo y était, donc on pouvait le faire. Donc on a dansé dessus.
Alors, pas d'argent. Les sonneurs, des fois, dans les concours de sonneurs, on gagne de l'argent, mais nous, on a dit qu'on ne voulait pas...
C'est
déjà la reconnaissance de ses pairs. Et puis après, effectivement, il y a des cadeaux, des bouquins, des CD, des bières, des paniers garnis avec du pâté. Enfin, il y a plein de lots qu'on récupère. Et donc, c'est des lots. Et puis, le champion, il a pendant un an le granit, un morceau de granit qui est sculpté, et il aura son nom marqué avec l'année où il a été champion. Et donc, au bout de 10 ans, on n'aura plus de place, donc on offrira, enfin, on va faire une remise de ce trophée. Et on a aussi en bronze une petite statuette marquée champion de Bretagne, un truc assez classe. Sur un support de bois qui fait un peu César, quoi. Et donc il y a un grand pour les champions, et puis pour le vice-champion et le troisième, il y a un plus petit. Sur la partie création, donc moi j'ai commencé à danser à SPZ, donc il y a un cercle qui est très ancré où la danse est restée dans le quotidien. C'est-à-dire que moi j'ai vu souvent la gavotte faite par plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'on va à un mariage d'un copain, on sort de l'église ou de la mairie, et ben voilà, on sort les clous, on joue, et toute la population va danser. Donc on est encore, pour moi, dans la danse qui fait partie de la vie. Ce qui, dans d'autres cercles qui sont plus citadins, la danse, c'est que en répé. Et donc je considère que j'ai eu la chance d'avoir connu ça. Je me souviens que d'aller en fiesta dans des locaux de groupe et de dire allez, on fait une gavotte. Et les gens disent on va pas faire une gavotte maintenant, on a la répé, elle est finie. Là maintenant on met du Claude François ou on met du et en fait la danse ne, enfin pour eux c'était une pratique que sur scène ou en répétition et pas forcément pour leur plaisir, quoi. Et dans la montagne, dans le centre Bretagne, et ben je pense qu'il y a encore ça qui est ressenti, quoi. Et donc 3 ans avant que j'arrive au cercle, il y a un gars qui avait écrit une lettre au cercle de Spézet pour les remercier du spectacle qu'ils avaient présenté à la Saint-Loup. Cette année-là, le cercle de Spézet était dernier du concours et rétrogradait en seconde catégorie. Ça arrive, hein, ça fait partie de. Le gars, je vais juste vous lire ce passage. Vous êtes la fidélité à une terre, à une mémoire, à un présent. Je vous en félicite parce qu'elle m'en réjouit. Si vous créez des nouvelles figures, faites-le, mais sans perdre cette âme que vous faites si bien sentir. À vous voir en traverse le temps vécu par la Bretagne, mais aussi par l'humanité, de sa pauvreté à ses joies. Les touristes, si on cède son cœur au tourisme, n'aimeront peu à peu voir ce que l'on voit partout. Ce n'est pas votre cas. Tous vos collègues danseurs et concurrents avaient de la valeur. Un mois a passé, et si on me demandait lesquels j'aimerais revoir, je vous nommerais. Parce qu'à l'époque, chez Z, eh ben, ils avaient fait quelque chose de très simple, où ils étaient encore restés sur des danses en rond. Et dans ces années-là, on commençait à être dans le côté exubérant, clinquant, spectaculaire. Et effectivement, il y a plusieurs, aujourd'hui, plusieurs voies, des voies plutôt innovantes, des voies plutôt traditionnelles. Et donc, SPZ et ce courrier montrent ce que nous, on a toujours essayé de faire, enfin, surtout à mon époque, quoi. Et donc, je vous ai parlé de la chance qu'on a eue de faire la mission conseil avec Bernard Daumontet. Donc, c'était en 2000. Et je crois qu'il y a eu un basculement dans ces années-là artistiquement au cercle de SPZ, parce que avant on faisait quelque chose qui était joli, avec des entrées, des sorties de scène, avec des rondes. Et puis Bernardo nous a surtout appris à écrire une chorégraphie, mais qui avait une intention. Il nous dit, mais là vous rentrez en ligne, mais pourquoi vous rentrez en ligne? Parce qu'on rentre en ligne, on trouve ça joli. Et il avait dit, je vais vous apprendre à justifier tout ce que vous faites. Si vous rentrez en ligne, il faut qu'il y ait une intention derrière. Et ça, ça nous avait... Parce que généralement, on écrivait quelque chose de joli, voilà. Alors, là, il y a 6 garçons qui rentrent là, ils font un rond, les filles rentrent comme ça. Et puis voilà, on essayait, ça rendait beau, et puis ça nous convenait. Et puis 2 mois avant le concours, on se disait, il faut qu'on fasse un petit texte pour dire, on va dire, allez, on vous propose un voyage dans le temps. Et puis voilà. Mais donc, il n'y avait pas de construction intellectuelle dans notre spectacle. Et donc, en 2001, on arrive avec tous les conseils de Bernardo. Et donc là, on est allé dans le côté chirurgical, où on avait dit il faut que tout ce qu'on fait ait une signification. Donc on avait trouvé le thème du miroir. Donc des fois, moi je commençais du pied gauche, et puis mon collègue qui était dans le miroir de l'autre côté de la scène, il allait réapprendre tout son pas, mais en commençant du pied droit. Et donc on a fait toutes les figures. Tout avec cette idée de miroir géométrique, mais aussi miroir de nous-mêmes, avec des caractères qui correspondaient à ce qu'on ressentait dans nos valeurs au cercle. Et on a fini champion pour la première fois en 2001, parce que effectivement, je pense que artistiquement, on avait changé notre façon de faire, quoi. Et je vais vous montrer juste un extrait de cette suite-là. Donc ça a été filmé en 2004 à l'espace Glenmore. On avait rempli 3 fois la salle en un week-end. Et cette très belle salle n'a jamais voulu après reprogrammer des cercles, alors qu'effectivement, il y avait évidemment sur carré de la demande pour ce genre de spectacle. Donc là, à l'époque, on était hyper nombreux. On était 22 garçons et 36 filles. Donc c'était l'usine. On était en double répétition constante. C'est-à-dire qu'il y avait toujours 2 salles de répétition. C'était un gros boulot. Après, sans transition, je voulais vous montrer une petite image d'un spectacle qui a été coproduit par les confédérations Kendall et Varler. Et ça a été le premier projet global qui un peu annonçait la future fusion. Le conseil régional nous avait dit, vous voulez faire une création, très bien, vous la faites ensemble et on vous donne 35 000 euros pour mettre en place cette création. Et donc, ça a été la première fois où on s'est mis d'accord artistiquement sur une même ligne directrice. Et je pense que ça a si bien marché. Ça a été un tremplin pour la fusion qui est arrivée.
Moi, j'ai une question.
Oui,
question. Alors,
attends, je...
Il y a des musiciens de musique bretonne qui sont professionnels. Oui. Est-ce qu'il y a des danseurs de danse bretonne qui sont professionnels, qui sont rémunérés, qui en font leur métier principalement?
Alors il y a des gens qui sont des transmetteurs, ouais, et qui en ont fait leur activité principale. Mais c'est très rare. Ouais. Il y a Yves Leblanc qui est décédé, qui a vécu en tant qu'intermittent pendant une vingtaine d'années. Mais c'était pas forcément en tant que lui danseur qui va sur un plateau et ouais, qui danse, c'est plutôt en tant que transmetteur. Il y a aussi quelqu'un comme Jean-Yves Joannic aussi qui a été chauffeur de taxi, mais il y avait une grosse partie de son activité qui était aussi dans la transmission. Il y a un chorégraphe qui s'appelle Karl Blanchet, qui a fait le spectacle que je vous ai montré là avec la nouvelle danse qu'on avait inventée. Il a une auto-entreprise et il facture son rôle de directeur artistique pour certains cercles. Donc ça peut arriver aussi. mais ça reste très rare.
C'est plus marginal qu'en musique, par exemple.
Ah, mais complètement.
Ouais, c'est...
Et... De même qu'il y a un diplôme d'État en musique traditionnelle
et pas en danse.
Et ça, vous sauriez l'expliquer ou comment ça se fait enfin...
Alors, je pense que c'est plutôt une richesse.
Ouais,
quelque
d'accord.
part.
Je comprends.
Et dans, j'ai passé très vite fait, mais sur nos valeurs, on avait discuté de ça, mais on a plusieurs valeurs,
dont
le bénévolat. Je pense qu'on sort du Covid plus facilement aussi parce que on n'a pas eu à gérer des gens qui sont au chômage partiel, etc. C'est-à-dire que à l'image de Michel, on donne des cours et c'est une pratique bénévole. Quoi.
C'est normal. On part du principe que nos anciens nous ont transmis,
ils
n'ont jamais rien demandé. Et moi, par principe, depuis que je fais des années 70 que je transmets, je vais en tant que bénévole. Quoi.
Et en même temps...
Je n'aurai pas l'idée de demander quoi que ce soit.
Et en même temps, je pense qu'on est peut-être dans un basculement pour la transmission à la jeunesse. Et j'en parle parce qu'on m'avait parlé des enjeux. Un des enjeux, c'est la jeunesse.
Ouais.
Et je pense que là, il n'y a pas beaucoup de Michel qui vont donner 17 heures de cours par semaine dans les écoles du coin. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'organiser, de structurer pour que... il y ait des gens qui soient professionnels de la transmission pour sensibiliser à la culture bretonne. Je pense que c'est un grand enjeu pour que la culture continue à vivre. C'est par les écoles qu'on va y arriver. Quoi. Et là, on a des subventions avec l'Europe pour expérimenter des classes danse. Et c'est lancé là, dans le Morbihan. Et on espère que ça va se développer. Plougastel, je crois qu'il y a un prochain projet. La jeunesse, je pense que c'est vraiment un enjeu très fort.
Et c'est quoi cette expérimentation ?
Alors, on a un de nos salariés qui va toutes les semaines dans les classes de collège pour apprendre et avec un projet pour la fin de l'année de présentation. Et donc, effectivement, le but, c'est de les sensibiliser et rêver pour qu'ils s'inscrivent aussi après dans un cercle. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les groupes adultes, je trouve qu'en effectif, on est resté sur des effectifs plutôt corrects, mais on voit que le Covid a fait beaucoup de mal sur les inscriptions pour les jeunes. Donc ça nous inquiète, parce que s'il n'y a pas d'enfants qui arrivent, qui nous remplacent, c'est un risque de disparition, quoi. On n'est pas là, mais...
On a du mal aussi, qu'il faut reconnaître, c'est qu'on a les garçons, on a beaucoup plus de mal à les faire venir maintenant dans les groupes. On a autant à notre époque, on était autant de garçons que de filles, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, c'est plus du tout le même cas. Il y a des groupes, on le voit, mais certains cercles ont du mal à trouver des. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui pour nous qu'on aille auprès des écoles. Pour que tout le monde danse, quoi. Qu'il n'y ait pas de différence, que la danse, c'est pas que pour les filles, quoi. Ça reste. Non, mais ça reste dans l'esprit de beaucoup, malheureusement. Et ça fait drôle pour nous en Bretagne, quoi. Parce qu'en Bretagne, on a toujours. Les gens ont tous dansé, il n'y avait pas de différence, qui que ce soit, mais on ne se serait jamais posé ces questions-là. Aujourd'hui, on voit qu'on le dit. Donc, moi, je l'ai connu avec le groupe de danse que j'avais dans l'ancien assaut que j'avais monté. On avait un groupe enfant. Et les garçons, on ne prenait pas de photos parce qu'ils disent, si, vis-à-vis des copains, si on nous voit dans le journal, c'est foutu, quoi. Oui, ils vont se faire chahuter. On était obligé de... On pouvait pas le faire. Mais non, c'est pas simple. Tant qu'on n'aura pas réussi à faire passer le message que tout le monde peut...
Honnêtement, je pense que non. Moi, je suis assez confiant sur ces questions-là. J'ai l'impression que toutes ces questions de genre sont plutôt en train de se solutionner quand même. Après, l'âge de l'adolescence restera sans doute toujours un peu compliqué. Il y en a qui s'inscrivent, et puis après, à l'adolescence, ils arrêtent un peu, et puis après, ils se réinscrivent. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que cette culture-là, cette pratique-là soit visible et qu'il y ait du plaisir, que les gens aient goûté, qu'ils aient fait le pas de rentrer dans une danse en fest-noz et qu'ils le voient. Et je pense qu'effectivement, là, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur les téléphones, les tablettes, eh ben, on a accès à tellement de choses que pour que la Bretagne reste la Bretagne et que ces pratiques singulières continuent, ben, il faut qu'elles soient soutenues et qu'il y ait des interventions, je pense, dans les écoles. Je crois que je voulais enchaîner sur quelque chose de plus contemporain, parce que là, on a vu quelque chose qui est aussi quand même très lié au costume breton. Et en fait, il y a le cercle de Douarnenez, les Corrigadis, qui, il y a 20 ans, ont fait un pas de côté et ont décidé de ne plus porter le costume traditionnel. Alors ça a fait tellement ça a posé tellement de questions qu'ils se sont même sortis de la Confédération Varleur, qui sont restés adhérents à la Fédération départementale Varleur, mais ils ont décroché le lien avec la Confédération, qui avait dans ses statuts le fait que le costume breton est une obligation. Et que si jamais on ne portait pas le costume breton, on sortait et on ne respectait pas un des trois piliers d'un spectacle, c'est-à-dire le costume, la danse traditionnelle et le côté scénique, quoi. C'était les trois notations. Et en gros, ils ont reçu le message que ben, vous, comme vous ne portez pas le costume traditionnel, on ne peut pas vous noter sur un des trois piliers. Donc du coup, en gros, ben, vous rétrogradez. Du coup, ben, ils ont dit, ben, oui, mais pourquoi vous ne respecterez pas notre volonté d'en sortir. Et depuis 20 ans, c'est un grand débat. Celui qui a envie de porter le costume, eh ben, il n'est pas moins bien ou meilleur que l'autre. Et donc là c'est un petit bout d'un reportage en langue bretonne, mais c'est sous-titré. Et donc on voit le spectacle Treizour, ça signifie transmission. Et donc c'est avec des danseurs amateurs qui travaillent avec 8 chanteurs qui sont eux professionnels. Et c'est un spectacle qui a été présenté une dizaine de fois, je pense. Et il y a eu un documentaire en langue bretonne sur France 3 qui a été réalisé, et donc vous allez voir quelque chose qui est inspiré de la danse bretonne, et là on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus
et
contemporain.
Il y a aussi Tristan, pardon, chorégraphe professionnel.
Oui, excuse-moi, oui.
Nous, on a accompagné justement ce projet
qui est plasticienne et chorégraphe, et donc avec Gilda Sergent, effectivement, ils ont porté ça tous les deux.
C'est vrai que ça a tourné, ce spectacle-là,
oui,
pour le coup.
Oui.
Mais ils se sont donné les moyens aussi que ça tourne.
Exact. Ils ont travaillé avec Bib Bravo, Sophie Garnier. Douarnenez, donc moi je me souviens en 2000, de un de leurs spectacles où pour la première fois ils ont enlevé le costume. Ils avaient fait sur les gras de Douarnenez, vous savez, c'est une fête très festive, déguisée, tout ça. Ils étaient arrivés avec des blouses de grand-mère à carreaux, vous savez, et puis des perruques blondes. Mais alors, effectivement, ça sortait complètement. Et puis alors, du coup, c'est avec la fanfare à bout de souffle, c'était vraiment osé. Mais ça avait fait un tollé dans le milieu culturel breton. Et du coup, ils avaient eu un prix quand même avec le conseil départemental à l'époque, parce qu'il y avait des ensembles départementaux qui étaient valorisés. On avait 3000 euros, je crois, de prix. Et donc, Spézet avait eu en 2001 et Douarnenez aussi pour leur démarche un peu osée. Et il y avait un bagage aussi qui avait aussi ce prix-là. Et je me souviens que ça m'avait vraiment marqué. Et donc, juste après, l'année suivante, ils ont quitté le système de catégorie. Et du coup, tous les 2-3 ans, ils ont sorti un nouveau spectacle qui était dans ce style de spectacle, sans costume. Et là, ils sont sur un nouveau, c'est Staga. Ça veut dire attaché. Donc là, c'est 3 minutes, un petit extrait de 3 minutes sur le spectacle Treizour. Deux dernières choses qui sont, je pense, un enjeu. Donc, le spectacle de rue, Léna en a parlé. Effectivement, on se dit que si on ne se concentre que sur les spectacles en salle, c'est bien, mais peut-être qu'on fait aussi venir que le public qui nous connaît déjà. Et le fait de présenter notre culture dans la rue, dans des endroits comme ce qu'on a fait à la Place Saint-Corentin à Quimper, eh ben, y a des gens qui ne savaient pas qu'il y avait ça, ils arrivent et puis ils voient quelque chose d'hyper qualitatif, eh ben, ils se disent tiens, ben, et pourquoi pas, c'est sympa. On sensibilise aussi des enfants et je pense que ça c'est important. Et dans l'expérience, il y a le cercle de Carfintin, donc le cercle de Quimper, qui a été 16 fois champion de Bretagne à Kendal, qui a lancé depuis la fin des années 2010, la fin des années 2000, en 2008, je crois qu'ils ont, 2007, 2008, 2009, ils ont commencé à travailler avec le fourneau. Et donc ils ont transposé la danse traditionnelle dans les arts de rue. Et ça a été quelque chose de nouveau. Ils ont fait 3 ou 4 spectacles, dont le dernier qui est Dark Nose, et qui pour moi est très très réussi. Par exemple, les filles ont transformé leur coiffe avec un tissu noir, il y a un maquillage. Donc il y a toujours certains codes bretons qu'on retrouve dans les pas, ils ont été très forts pour recréer un univers effectivement un petit peu noir, mais qui est hyper impressionnant, et ils attirent avec ce spectacle là 3-4 000 personnes là où ils sont programmés, quoi. Et avec un gros effectif. Et pour avoir cet effectif, là, ils travaillent aussi avec des fois des danseurs qui viennent d'autres cercles pour créer des effets de masse, quoi. Je vous mets juste la bande-annonce qui vous donnera vraiment une idée de ce que ça peut être. Et je pense que c'est un des enjeux de notre confédération, de pousser les groupes à travailler ça. C'est pour ça qu'avant, on ne jugeait que sur une suite scénique de 20 minutes, et que maintenant, ça commence à rentrer dans nos grilles d'évaluation aussi, quoi. Ah oui, il y a un nouveau Brace Battle, ils ont un nouveau spectacle aussi qui est plus sur un côté deux équipes qui s'affrontent, et puis donc ils transmettent la culture avec un petit jeu, et ils font des petits battles, il y a un animateur. Donc ils sont dans ces démarches-là de création pour la rue. Et je voulais vous montrer, et finir par ça, c'est sur le teaser de Dansons par Rose. C'est le spectacle qui a été créé avec les enfants des cercles Doré et de Plunérette, avec un financement des fonds européens. Et c'est aussi par là qu'on crée l'expérimentation avec la jeunesse. Et là, donc, on avait une enveloppe de 50 000 euros. Et cette expérimentation, donc, qui est faite seulement sur le pays Doré, a pour vocation d'être dupliquée sur d'autres endroits. Parce qu'un enfant qui est embarqué dans un spectacle très bien mené, avec des professionnels en lumière, en son, avec des gens qui gèrent, parce qu'on a travaillé aussi avec des Basques, des danseurs basques de la compagnie Marie Zouli. Et donc, effectivement, ces jeunes-là, on les retrouvera dans 20 ans, je pense, en responsabilité, parce qu'il faut il faut justement créer les meneurs de demain. Et avec ce genre de projet-là, c'est une des solutions pour y arriver, quoi.
Voilà. J'ai une question, oui. Parce que du coup, vous faites aussi de la formation.
Oui.
Et pour accompagner justement ces démarches de création, est-ce que vous faites dans vos formations justement des formations sur l'écriture chorégraphique?
Oui. Enfin, régulièrement, on propose. Et d'ailleurs, on considère que ce genre de spectacle, comme Songe, comme les spectacles qu'on avait fait avant, Danse Académie, etc., on fait des fois des castings pour que les danseurs soient recrutés. Et en fait, on sait que ceux qui vont postuler sont les meneurs de leur propre groupe. Et le fait de rentrer dans des créations très cadrées, ils vont voir effectivement des façons de mener les répétitions, des façons de respecter l'heure. En fait, il y a des gens qui ont dit, depuis que j'ai fait Danse Académie, je mène plus du tout mes répés dans mon cercle comme je le faisais avant. Et en fait, c'est une sorte de formation. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux pour faire ces créations, mais on sait qu'après, ils vont amener la bonne parole pour savoir travailler de telle ou telle façon, même dans les changements de costumes, dans les façons d'écrire le spectacle. Et par exemple, là, un des projets de 2023-2024, c'est de travailler un peu comme ça avec tous les enfants des cercles. Donc de faire une grande création où on va rassembler l'ensemble des enfants de Bretagne. Et en fait, ces enfants-là, ils vont donc être menés par une équipe professionnelle. Mais les moniteurs de ces groupes-là, qui des fois, c'est pas nous qui gérons, et des fois la qualité pédagogique, parce que c'est pas des professionnels, n'est pas peut-être à la hauteur de ce qu'on aimerait, ils vont pouvoir voir aussi comment on a géré collectivement, sur les départements. Je pense qu'on ne pourra pas travailler sur des répés région entière, mais il y aura peut-être un tableau Finistère, un tableau Morbihan. Et en fait, tout ça va être accompagné de formation. C'est-à-dire qu'on va dire, nous, on prend les enfants, et en même temps, tous les meneurs, vous allez venir, et puis on va vous expliquer aussi que sur le costume, quelles sont les valeurs qu'on a envie de défendre. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on va aussi attirer des gens en formation. Que des fois, quand on dit on fait une journée de formation sur la démarche chorégraphique, comme les gens ils ont déjà tellement à faire avec leur groupe que des fois on a du mal à les attirer à faire des kilomètres. Et s'ils habitent Guénou, s'il faut aller à Auray en formation, ça devient compliqué d'attirer. Mais du coup, si on a un projet en leur disant on a besoin de vos enfants, vous allez venir, et en même temps eh ben, on va essayer de leur transmettre des choses qui sont importantes, eh ben, on pourra effectivement augmenter la qualité, quoi. Mais moi quand j'ai commencé, on se battait, parce que généralement il y avait, allez, en stage recyclage j'avais droit à 4 par cercle. Oui. On se battait pour être un des 4 pour aller en stage. Ben, maintenant on se bat pour trouver quelqu'un pour aller en stage. Parce qu'effectivement, les jeunes sont peut-être sur... Il y a plein de propositions. Et effectivement, l'engagement, j'ai l'impression que... Et je pense que ce n'est pas que pour la culture bretonne, c'est aussi dans le sport, c'est aussi... L'engagement associatif n'est plus forcément le même qu'avant. Et encore, ce n'est pas partout pareil, parce qu'il y a des endroits où ça marche à fond, quoi. Mais je pense que l'humain, l'envie, le fait de mener, de donner l'envie, c'est essentiel dans un groupe, mais ça ne s'invente pas, quoi. Et je pense que même dans le côté management, eh ben, il y a beaucoup de formations à faire pour justement expliquer quelles sont les recettes pour créer cette envie, quoi. Plein d'enjeux. Et la formation... Et pour moi, un enjeu essentiel. Là, avec le Covid, on n'a pas fait de formation de moniteur, mais là, ça reprend. On espère qu'en octobre, donc on a 4 week-ends de formation avec un diplôme, avec des contrôles écrits, des contrôles pédagogiques, de mise en situation. On espère qu'on va faire le plein et que ça va repartir. Parce qu'effectivement, un meneur, il a besoin de modèles, il a besoin d'avoir aussi... voilà, c'est ça.
Et alors, tous les spectacles dans l'espace public, j'imagine, sont gratuits. Ceux qui sont en scène, sur scène, c'est payant ?
Oui, généralement.
Okay. Et ouais. Les fesnos aussi, c'est payant ?
Ah oui, les fesnos, c'est payant. Ouais. Allez, le premier prix pour... Alors, il y a certains fesnos qui sont gratuits, notamment les fesnos dits de touristes sur la côte, parce que les mairies ont plein de sous et ils disent, allez hop, jeudi prochain, fesnos gratuit, et puis bah, ça fait partie de l'animation estivale. Autrement, un fesnos plutôt d'hiver ou pour les gens qui sont des aficionados du fesnos, ça va entre 5€ l'entrée jusqu'à, pour Yaouank, le plus gros fesnos qui a lieu à Rennes, c'est aujourd'hui 18 ou 20€ l'entrée, quoi. Mais là, il y a deux salles, deux ambiances, programmation de 15h jusqu'à 6h du matin, et avec des choses qu'on ne voit qu'une fois parce que le programmateur est très... Il arrive à sortir des choses un peu uniques.
Ça a beaucoup évolué depuis que moi je fais de la danse. Les fesnos à notre époque, c'était, on va pas dire gratuit, mais presque, quoi.
Ouais. C'est ce que je me demandais, sachant qu'en plus vous êtes bénévole, du coup je me posais la question de savoir.
Le problème, ceux qui viennent de jouer, souvent maintenant, sont des professionnels.
Oui.
Donc ce sont des intermittents du spectacle. Et donc il faut payer à la fois, on paye bien sûr ces gens-là, mais il y a leur somme, il y a tout ce qui va avec derrière. Donc si on donne, on dit 100€, en réalité c'est plutôt 150, 200€ que ça revient. C'était comme ça, je pense que ça, c'est pareil toujours.
Donc reste de la place quand même pour les amateurs quand même.
Oui.
Par exemple, moi j'ai mon activité professionnelle à Kenler, donc c'est mon activité principale, et je joue pour le plaisir, donc je ne vais pas dire que je suis bénévole, parce que j'ai mes frais d'instruments, mes frais de route, etc., donc je prends quelque chose, mais finalement je ne prends pas de cachet, il n'y a pas de charge sociale, et des gens comme moi, des gens qui sont profs et qui sont sur scène en fesnos régulièrement, il y en a plein quand même. Mais c'est vrai que le fesnos est un phénomène qui a d'ailleurs été reconnu par l'UNESCO en 2013. Il a été inscrit au patrimoine mondial. Et la Bretagne cherchait à valoriser quelque chose qui faisait partie de son ADN. Ça aurait pu être le gâteau breton, ça aurait pu être la coiffe bigouden, ça aurait pu être les pardons, la broderie. Et en fait, ce qui a été le plus transversal, où il y avait de tout, il y avait à la fois la Haute-Bretagne, la Basse-Bretagne, il y avait à la fois la musique, la danse, il y avait la convivialité. En fait, le fesnos, aujourd'hui, c'est un des phénomènes qui a été créé. Le premier fesnos, c'est le décembre 1954. Ça a commencé par un concours de chant de Cornelis Loïs Ropars, dont tu parlais. En fait, c'était un gars de Poulaouen, qui était déjà un peu un intellectuel de la culture bretonne. Donc, il était plutôt originaire du bourg, ce n'est pas un paysan de la campagne de Poulaouen. Donc il était instruit, il était prof de latin au Lucès, et il s'est dit, là il y a plein d'anciens qui ont une très belle technique de chant en breton, c'est en train de se perdre depuis la guerre, ils ont quasiment pas chanté. Il a dit, allez, je vous rassemble là, tous les petits vieux de Plougastel, et puis nouveauté, on va vous mettre un micro. Et donc, on électrifie pour la première fois la voix bretonne. Et on leur dit, ah ben, en plus, on a une nouvelle salle de bal. Vous allez monter sur l'estrade. Mmh. Et donc, et on va faire un concours pour vous valoriser. Et là, tout le monde, toute la population qui vient à ce concours-là, se prend par les bras et puis lance la gavotte. Et en fait, ça devient une soirée où le lien social, toute la population est venue. On valorise la danse, le chant... et du coup ça a lancé le phénomène. Ils ont refait un concours à Spézet quelques mois plus tard en 1955, et puis après les cercles commençaient à être créés. On a vu les dates là, ils ont dit bah, nous pour gagner de l'argent pour payer les costumes, la midonnage de coiffe, etc., et ben, on a besoin de faire un fest-noz, on va inviter les chanteurs, les sonneurs du coin, et le fest-noz a été lancé dans le centre Bretagne, autour du centre Finistère. Surtout à Poulaouen, à Spézet, à Carhaix, avec les sœurs Guadec, avec les frères Morvan, qui sont devenus des stars du fest-noz. Et puis après, Loïs Ropars, qui était prof à Quimper, au Liquès, au lycée, et ben il a dit, on va en faire pas un fest-noz, on va marquer bal breton, et on va lancer ça dans une salle à Quimper. Et donc, c'était organisé au Chapeau Rouge. Et donc, le cercle de Poulaouen venait en quart avec le chapeau, la coiffe, le costume breton. Et donc, ils ont essayé de dire à la population quimperoise, venez, on va vous apprendre. Et donc là, il a fallu commencer à pédagogiquement dire, on va faire un andro. Ils ont choisi andro, enterdro, quelques danses qui allaient être à peu près faciles pour transmettre ça. Et le fest-noz est passé de la ruralité au côté urbain, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui le fest-noz urbain a plus de la cote, parce que les fest-noz ruraux et des petites communes a tendance à malheureusement souffrir un petit peu parce que moins de moyens, alors qu'il y a Wang, bah, ils ont une subvention de 100 000 euros. Bah, évidemment, on a une programmation artistique exceptionnelle, on a des lumières formidables, on a des salles avec un parquet formidable, et toute la Bretagne en fin novembre se retrouve à Rennes, quoi. Et donc, ces fest-noz-là tirent leur épingle du jeu parce qu'il y a une grosse com, il y a des affiches dans le métro, dans les abribus. Et puis, bah, le petit fest-noz de Gouenou, effectivement, il attire moins la jeunesse parce que la jeunesse fait de la route pour aller dans ces shows-là, quoi. Et le fest-noz, ouais, c'est un sacré phénomène. Hein. Et une économie aussi. Hein. Donc, pendant le Covid, tout s'est écroulé, ça a été très, très compliqué. Il y a plein de musiciens intermittents du spectacle qui ne vivent que du fest-noz.
Ah oui.
Ah mais il y en a, je sais pas, moi, il y a peut-être 500 personnes qui aujourd'hui ne vivent que du fest-noz en tant qu'intermittents du spectacle. Il y a beaucoup de groupes.
Ça a été une catastrophe pour eux d'ailleurs.
Alors ils ont eu la chance avec leur année blanche. Et puis quand même, il y a eu quelques petites tentatives l'été dernier en 2021 quand même. Il y en a qui ont souffert, hein. Surtout ceux qui avaient démissionné pour rentrer dans le statut d'intermittence.
Ah ouais, c'est sûr.
Ça a été terrible pour eux.
D'autres questions?
Je me posais la question, le spectacle que tu nous as montré là,
Dark Nose, ouais.
Ouais, ça fait aussi écho à la création assez récente là, du Baguette de Briac.
Oui, exactement.
C'est tout à fait le même univers, oui. Et la même logique aussi d'investir l'espace public et présenter un spectacle dans la rue. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu disais en début de journée, que pour voir la bande bretonne, ce que tu disais aussi à Aurine, faut aller en fest-noz. Donc il faut faire la démarche d'aller en fest-noz et d'aller à la rencontre de la danse bretonne, avec ce que ça peut parfois, la réticence que ça peut provoquer chez quelqu'un qui va dire moi je sais pas danser, je vais jamais oser y aller. Et je pense qu'effectivement, il y a tout à fait d'accord avec toi, sur le fait qu'il y ait vraiment quelque chose à faire sur le fait de remettre la danse dans les rues, et ça fait aussi complètement écho à ce que vous présentez Équilibre Noah en début d'après-midi, où il s'est rendu compte que en coin de rue, il y avait une danse traditionnelle qui était complètement investie au coin d'un resto, d'un café, d'un truc. Et c'est vrai que moi je trouve cette démarche-là hyper intéressante. Et j'en reparlais même encore avec Caroline qui est derrière, qui me disait moi je m'intéresse à plein de danses, mais d'ailleurs, et je m'intéresse finalement peu, voire pas à la tradition, qui pourtant est la tradition de ma région. Parce que voilà, il n'y a pas eu toute cette sensibilisation et cet accès en fait, quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu, du coup, le terme est revenu régulièrement dans la région. je crois que je trouve que ces démarches sont vraiment intéressantes. Hein. J'espère aussi que ça pourra se développer. Il y a des belles initiatives et ça fait plaisir.
Merci.
C'est drôle, j'ai l'impression de nous entendre à Danse à tous les étages, parce qu'on dit un peu la même chose. On dit, bah nous, la danse contemporaine, ouais, les gens viennent tous dans nos salles, donc on va aller dehors. Et je me dis, en fait, on a plein de points en commun, à plein de moments, en tout cas.
Comme disait Tristan, il faut faire connaître.
En fait, c'est que des...
Et pour faire connaître, c'est pas dans une salle qu'on va faire connaître aux gens.
Dans son truc,
si on est dans son coin, c'est foutu. Et c'est dommage, parce qu'autrefois, on dansait bien dans la rue. Hein. Moi, j'ai eu cette chance de connaître. J'étais sur Brasmar, Saint-Louis et tout ça. C'était dehors qu'on dansait quand dès qu'il y avait tout. Et puis même dans les pardons, on dansait autour des chapelles, des choses comme ça. Et tout le monde s'y mettait. Et tout le monde voyait ce qu'on faisait. Donc on était tous. Et les gens rentraient dans la danse. Même s'ils ne savaient pas faire, souvent, tu viens. On les entraînait, on leur disait, venez, on va se débrouiller. Et puis voilà, il faut leur donner l'envie de le faire. Et si on reste cloisonné dans une salle, on va dire que ça va être limité à des gens qui connaissent quoi. Et c'est pas le but, parce que le but c'est de le faire connaître.
C'est aussi un objet qui est fondamentalement mouvant et de transformer ça en un patrimoine aussi de musée, quoi.
Enfin, oui.
Si on tire à l'extrême, du coup.
Oui, il y a toujours ce danger.
Ouais.
Sortir de l'entre-soi, c'est un des enjeux, c'est sûr.
On va y arriver.
Oui.
En tout cas, le problème du manque de recrutement de garçons dans toutes les danses, hein, c'est un problème. Hein. C'est pas que les danses trad. Hein.
Mais c'est vrai que du coup, c'était un secteur qui était un peu préservé.
Bah oui,
c'est
vrai.
À l'époque, on n'avait pas ce problème. Moi, étant plus jeune, quand dans les groupes où on était quand même, même pour la danse, quand on se retrouvait ensemble, il y avait autant de garçons que de filles. Quoi. Le problème ne se posait pas comme on voit aujourd'hui. Quoi. Parce que c'est dommage, quoi, parce qu'il faut faire venir tout le monde. On ne doit pas se contenter simplement d'une série, il faut que tout le monde rentre. Et en plus, c'est comme ça qu'on arrivera à bien garder notre culture, qu'on la fera, qu'elle perdure. Et c'est d'où l'intérêt d'aller... il faut qu'on aille faire les écoles et puis qu'on nous montre ce qu'on peut faire.
Mais vous vous sentez... vraiment menacé, parce que par exemple il y a toute une politique de défense en Bretagne sur la langue bretonne déjà, donc enfin il y a quand même des signes qui...
On a du mal quand même dans des on a du mal avec nos certains cas, je voudrais pas citer un de nos anciens ministres qui il a quand même un moment il a fallu se bagarrer pour que la langue bretonne puisse continuer à se faire, quoi. Il y a eu quand même des réunions et des choses qui se sont... On se dit que il faut être vigilant en permanence, quoi.
Et en même temps, je pense que il faut qu'on soit... Si on a toujours un discours, il faut qu'on se défende. En fait, je pense qu'il faut sortir de ces mots-là. Il faut dire, il faut valoriser notre culture, il faut la développer. Parce que si on dit il faut défendre, ça veut dire qu'il y a un ennemi, quoi. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on travaille sur la fierté qu'on a d'exister, l'envie de que ça se transmette, mais pour des valeurs festives, de partage, de lien social. Je pense que des fois, quand on veut être trop dans la revendication, c'est peut-être des fois pas une si bonne stratégie.
On entend aussi pas mal de plus en plus, moi j'ai l'impression, le discours de dire que finalement l'urgence de préserver la danse, le pas, la tradition, on est peut-être à l'heure d'aujourd'hui, en 2022, plus dans cette même logique et dans le même contexte. Et c'est vrai que moi, les cercles d'amis, pour le coup, dans lesquels je peux être, me disent que pour eux, de toute façon, ils ne se reconnaissent même pas dans la pratique d'un cercle celtique, on aime ou pas le terme, et qu'ils ne vont même pas voir de spectacle, tu vois, que ce soit en festival interceltique, en danse traditionnelle, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qui est leur pratique, qui est la leur, d'aller en fest-noz, de continuer quand même à aller en fest-noz rural dans les campagnes. Et c'est vrai, du coup, il y a aussi cet enjeu, des fois, où tu te dis, il y a peut-être une distance qui a été prise entre ce qui est devenu la représentation de la danse bretonne et ce qui est vécu, en fait, par les gens et ce qui traverse les individus quand tu vas danser en fest-noz. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas vu un spectacle de cercle celtique depuis que je ne danse plus en cercle celtique, je pense.
Moi, je crois que une des et je pense que une des principales raisons pour lesquelles moi je danse, c'est pas forcément pour le côté mécanique. Je pense que le plaisir d'être dans un groupe de danse ou d'aller en fest-noz, c'est surtout le côté social, quoi. En fait, j'aurais pu tomber dans le judo, peut-être que j'aurais adoré le judo, mais parce qu'il y aurait eu tout le lien humain. Et en fait, dans notre société qui évolue avec toutes les nouvelles technologies qui... Et puis ce Covid-là, il faut savoir que la danse bretonne, quand même, c'est l'anti-pratique, parce qu'on se touche avec les masques, faire du ficelle en masque, vous imaginez.
Oh, c'est l'horreur.
Et je pense que c'est ça qui sera peut-être la chance de notre pratique, parce que plus on va voir cette évolution-là devenir un petit peu plus individualiste, c'est-à-dire que Jean-Michel Guichard expliquait qu'au début, eh ben, c'était la ronde. Et après, la ronde s'est cassée et on a dansé en chaîne, c'est-à-dire qu'il y avait un meneur. Et puis donc après, il y avait une fin de chaîne. Puis après, il y a eu quelqu'un dans la chaîne qui a dit bah, « Pourquoi il n'y a qu'un meneur? Moi, je veux mener. » Et du coup, on a fait des mini-chaînes. Et puis après, on s'est rangé par quatre, c'est-à-dire on encadrait donc un garçon, deux filles et un garçon. Et après, il y en a qui ont dit oh, « Pourquoi c'est toi qui mène? Moi, j'ai envie de mener. » Et du coup, chacun s'est mis par couple. Et donc là, on arrive en pays bigoudin. Donc, et après, on dansait avec bigoudin. Et puis on est les uns derrière les autres en cortège. Et puis après, la société rurale décline, et puis on arrive dans les débuts des discothèques, et puis on s'accroche même plus avec notre cavalière, c'est-à-dire qu'on commence à être complètement, on se touche plus, si on regarde la pratique de la danse, qui est le reflet de la société. Et une fois, je sors d'un fest-noz, c'était à Clisson, on était hébergés dans un endroit, puis il y avait des jeunes de 20 ans qui faisait la fête, et donc je rentre un peu en curieux, puis et donc je vois tous les, parce que je me dis, même quand on danse un peu la dance et tout ça, on était, même si on se touchait pas, on était un peu connectés, c'est-à-dire qu'on danse les yeux dans les yeux. Je suis arrivé et ces jeunes là c'était un gros mur de son, ils étaient tous en quinconce là devant ce mur de son, et en fait ils étaient même plus connectés entre eux. Et donc je me dis, effectivement, si on regarde un siècle de danse, eh ben, on voit que ce qui était très 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 lié, petit à petit dans le côté, dans la forme de la danse, c'est délité. Et je pense que c'est notre chance, parce qu'il y a un moment, les gens auront besoin de ce contact, parce que dans nos vies, on va rentrer dans un ascenseur, on connaît pas l'autre, limite on va se mettre le plus loin possible, et puis on va au fest-noz, et puis hop, on va s'accrocher. Et en fait, mais les gens qui sont seuls, eh ben, ils auront besoin de ça. Et peut-être que c'est une des raisons qui font que la danse bretonne, elle a un bel avenir quand même.
C'est la convivialité qu'on doit retrouver dans la danse. C'était ça qu'on avait, et qui m'a toujours plu. Moi, j'ai dansé pour ça, parce que ça permet de se retrouver. Même quand je fais mes cours pour les adultes le soir, j'ai envie qu'on passe une bonne soirée, qu'on soit tous ensemble, qu'ils se retrouvent. Même moi, quand ils discutent entre eux, je trouve que c'est bien. Parce que les gens ils se retrouvent pour une soirée, et ils sont en train de discuter, et puis on danse en même temps. Je trouve que c'est ça qu'il faut redonner aux gens. On est tellement devenus individualistes aujourd'hui qu'il faut repartir, et je suis d'accord avec Tristan, on a une grande chance de ce côté-là, et c'est là qu'il faut continuer à le faire. Moi, j'ai toujours adoré ce côté-là de mon coin, parce qu'il y avait cette convivialité, quel que soit tout le monde se retrouvait ensemble, et c'était chouette.
Bah, en tout cas, moi, ce que je trouve assez fort, et c'est aussi dans les vidéos, c'est le plaisir de danser. On sent que il se passe quelque chose sur les visages. Tout à l'heure, quand on a dansé tous ensemble aussi, on sent bien qu'il se passe des choses à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment c'est important. C'est ce qui fait qu'on est, je pense, tous autour de cette table, c'est qu'on a tous... le plaisir de la danse d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, c'est ce qui nous rassemble, en tout cas, c'est chouette.
Bon, merci pour l'invitation.
Merci infiniment, vraiment, c'était passionnant.